nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Son premier travail pour le cinéma, il l'exerça à l'âge de 19 ans en incarnant le chevalier Gauvin dans Le Lancelot du Lac de Robert Bresson. Assistant du metteur en scène sur Le Diable probablement, sorti en 1977, puis réalisateur d'un documentaire sur la comédienne Nadia Boulanger en 1980, il se lance ensuite dans ce qui deviendra son métier pour de bon, la production. Figure de cette profession qu'il exerça en indépendant, producteur de 65 films en 25 ans, Humbert Balzan œuvra pour faire exister les films de Youssef Chahine, de Yousri Nasrallah, d'Elia Souleymane, Philippe Faucon, Claire Denis ou Sandrine Vesset. Il s'est donné la mort en février 2005. En 1987, à 33 ans, il avait déjà produit entre autres « Adieu Bonaparte » et « Le sixième jour » de Youssef Chahine, « L'homme voilé » de Maroun Baghdadi, et il était en train de préparer « Un médecin des Lumières », un film de René Alliot réalisé pour la télévision. Au micro de Serge Danet pour l'émission Microfilm le 25 octobre de cette année-là, il racontait sa pratique, à la fois grave et enjouée, de son métier et du cinéma.
Microfilm. Microfilm, bonsoir, et une fois de plus, on se penche vers la partie la plus intéressante, la plus primordiale, on l'a dit, on l'a redit, la plus névralgique aujourd'hui du cinéma, qui est la production. Donc une fois déjà, on a parlé avec Toscan Duplantier de son expérience de producteur sur le film de Piala, mais Toscan est quelqu'un d'assez connu, d'assez public, il n'est pas avare de parole. Il est aussi intéressant de parler à des gens de la génération d'après, des gens qui sont donc de jeunes producteurs, et qui ont choisi de, plutôt que d'être acteur, on verra que c'est le cas en l'occurrence, plutôt que d'être metteur en scène, de s'intéresser à la production de films en tant que c'est une aventure. Donc on a demandé à Humbert Balzan de venir. Il n'est pas complètement dans l'actualité, ou il ne l'est plus complètement, puisque le film qu'il a produit, le dernier, le film de Maroun Baghdadi, est déjà sorti il y a un petit bout de temps. On a déjà parlé du film avec Maroun lui-même. Mais on a beaucoup parlé de films qu'il a produits avant, particulièrement les deux films de Youssef Chahine, Le sixième jour et Adieu Bonaparte, qu'on a dû citer maintes fois dans l'émission. Donc Humbert Balzan, c'est quoi un jeune producteur? Quel âge tu as d'abord?
J'ai 33 ans et ça me rappelle quand j'avais commencé dans ce métier vers l'âge de 19 ans, je venais de finir le film de Robert Bresson dans lequel je jouais à l'époque.
Tu jouais Gauvin, Gauvin dans Lancelot du Lac.
Absolument. Et je me souviens d'être allé voir des films de Fassbinder à l'Olympique chez Frédéric Mitterrand. Et il y avait un cycle Fassbinder 33 ans, 33 films. Et je me disais, formidable, à 33 ans, d'avoir fait 33 films. Alors moi, j'ai 33 ans et j'ai participé, je me suis rendu compte, à peu près 33 films en tant que comédien, assistant metteur en scène, producteur et intermédiaire pour que des films se fassent. Alors, moi je suis très content d'être ici et que cette émission s'appelle Microfilm, parce que moi je suis un micro-producteur, un petit producteur, et je crois beaucoup aux petits producteurs indépendants. Je pense que c'est ce qui peut sauver ce qu'on appelle la crise du cinéma français. Si toutefois il doit y avoir une crise, j'ai l'impression qu'on exagère un petit peu cette crise.
Bon, cette crise, évidemment, on va en parler. On va essayer de la décrire de ton point de vue, comment tu la vois ou comment tu ne la vois pas ou comment tu penses qu'elle est surestimée. Moi, je voudrais simplement dire quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand on s'est revu il n'y a pas très longtemps, un peu par hasard comme ça à Paris, c'est que, comme les deux films que tu as produits pour Youssef Chahine n'avaient pas été des grands succès commerciaux, je me disais, le pauvre Humbert, qui est un jeune producteur qui s'est beaucoup risqué là-dedans, il doit être complètement détruit. Donc j'étais prêt à te consoler un peu en disant les films sont bien, etc., ils resteront, t'en fais pas. Et puis je t'ai trouvé en pleine forme, déjà sur un autre projet, après le film de Maroun en train de produire le film d'Alliot. Et on en a parlé et puis je me suis rendu compte que j'avais tort, parce que ça fait partie pas seulement des servitudes de ce métier, d'avoir des hauts et des bas ou des films qui marchent pas, mais peut-être même de ce qui est normal pour ce métier, c'est-à-dire de continuer de toute façon en n'étant pas totalement détruit quand les gens ne sont pas au rendez-vous. Donc je me suis dit, il y a un plaisir du producteur, qui est un peu un plaisir de joueur, qui est un peu un plaisir très individuel, très particulier, et moi j'ai pris ça trop au sérieux, donc je voudrais que tu parles un peu de cette sorte de... cette sorte d'euphorie qu'il y a finalement à faire les choses, qui est plus grande que la tristesse quand elle ne marche pas très bien.
Je crois que, de toute façon, il faut prendre ça au sérieux. C'est quelque chose de très sérieux. La production, ça va jusqu'à la mort, jusqu'au suicide. On a des exemples célèbres d'amis qui se sont perdus dans la production. Cela dit, moi, je pense que la crise du cinéma a été un peu surestimée parce que ceux qui en parlent sont ceux qui ont été dans un très grand confort et dans un très grand luxe commercial, et que moi, je suis plutôt dans un système de production qui est de faire des films... auxquels je crois, qui m'intéressent, et donc le fait qu'ils marchent ou qu'ils ne marchent pas évidemment me touche, mais ne peuvent pas me mettre par terre, puisque déjà c'est un miracle de les avoir faits. Donc pour moi, la crise dont on parle beaucoup actuellement, elle est... il n'y a pas de crise pour moi, au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de perspectives positives dans le cinéma français actuellement, et le fait d'avoir un film qui ne marche pas, c'est quelquefois effectivement beaucoup plus dynamisant que d'avoir un film qui marche. Je crois que le problème des entrées est un faux problème. Et on est dans une économie audiovisuelle de plus en plus luxueuse, paradoxalement. Ce qui veut dire que si un film ne marche pas en salle actuellement, il y a des tas de possibilités de couvrir son coût et de l'amortir par les droits dérivés qui sont la télévision, la vidéo, etc. Donc je crois que c'est justement dans ces périodes difficiles qu'il faut continuer à garder le cap de ce qui vous intéresse et surtout pas changer et aller vers des films qui ne seraient pas les films qui m'intéresseraient. Donc je continue à faire des films qui m'intéressent. Actuellement, je fais un film de René Alliot qui m'intéresse beaucoup sur le plan de la production parce que c'est une nouvelle façon de faire des films puisque le film est essentiellement financé par la télévision. Donc finalement on fera un film, on peut appeler ça un film de télévision, mais au résultat ça sera un film, et si ce film est réussi, on l'exploitera certainement en salle et on ira vers un public avec beaucoup moins d'anxiété et d'appréhension qu'on ne pouvait en avoir auparavant, où il y avait beaucoup d'enjeux, d'investissements publicitaires, etc., des grosses sommes investies un peu à tort et à travers sur des films qui n'avaient peut-être pas besoin d'avoir autant de publicité.
Donc lorsque tu dis les films qui m'intéressent, pour un producteur, ça peut avoir plusieurs sens. Dans le temps, les gens qui étaient les chefs des grands studios, qui étaient des grands producteurs à l'ancienne, avaient une sorte de style maison. Donc ils achetaient plutôt un grand roman, où ils avaient des stars sous contrat. Bon, ce système n'existe plus. Ça a été remplacé chez les producteurs par l'obligation de faire confiance à des gens. Donc des gens, c'est en général des auteurs. Et à l'intérieur de la gamme existante des auteurs, de faire confiance à certaines personnes, soit parce qu'on est en symbiose avec elles, soit parce qu'on pense que c'est des gens qui ne sont pas connus mais qui vont l'être. Donc c'est quoi, toi, ce qui t'intéresse a priori, c'est quand même de faire alliance avec quelqu'un.
Moi, tout à fait, surtout que je suis un peu à la charnière de ce système, puisque j'ai commencé avec des gens qui étaient plutôt déjà, qui avaient déjà une grande expérience, enfin qui avaient déjà fait des films, donc j'étais un partenaire de gens qui... bon, dont j'avais aimé les films, ou dont j'aimais les scripts, ou dont j'aimais le projet. Cela dit, je crois que le métier de producteur en France est quelque chose qui devrait évoluer, qu'il faut plus de producteurs, qu'il faut plus de jeunes producteurs, que plus il y en aura, mieux ce sera pour le système, plus il y aura d'inventions, et que les rapports entre les auteurs et les producteurs vont d'une certaine manière changer, puisque les producteurs avaient été un peu relégués dans une position de super comptable et super gérant de l'argent. Alors que maintenant, je crois que ce sont des vrais partenaires qui peuvent proposer aux auteurs et aux metteurs en scène des choses et intervenir artistiquement et être en tout cas des partenaires et non pas des ennemis. Mm-hmm. Puisqu'à une époque, les producteurs étaient plutôt les ennemis des auteurs.
C'est ça, nous on a grandi dans l'idée que le producteur c'était celui contre qui on faisait le film, et plus il résistait, plus ça donnait à l'auteur une chance de prouver que lui aussi existait. C'est un équilibre qui s'est rompu. On a eu le risque d'avoir des producteurs qui étaient trop cinéphiles, c'est-à-dire qui étaient trop admiratifs ou trop respectueux de ce qui était supposé être la vision du monde de l'auteur, ce qui a donné également de mauvais résultats. Et peut-être qu'on s'achemine vers une troisième fournée de producteurs qui seraient des partenaires vigilants, c'est-à-dire qui également représenteraient pour l'auteur une sorte de cran d'arrêt, puisqu'il représente Il représente deux choses que l'auteur, après tout, n'est pas censé maîtriser, qui est d'un côté l'argent, donc les puissances d'argent, d'autre part le public. Bon, l'argent, il est quelque part, le public, il est ailleurs. Au milieu, il y a un film et il doit y avoir, pour protéger l'ensemble, un producteur. D'ailleurs, je voudrais dire une anecdote à cet égard, c'est que quelqu'un qui, en ce moment, est en train de faire passer les concours d'entrée à la FEMIS, donc ils sont l'équivalent des anciens concours d'entrée à l'IDEC, se sont rendu compte avec pas mal de soulagement que maintenant, chez les jeunes, il y a des types, il y a des jeunes qui disent « moi, je vais être producteur ». Alors que moi, je me souviens avoir fait passer également ces concours et on ne trouvait pas une personne qui ne dise pas, à l'époque, il y a donc peut-être 10 ans de ça, « je veux être auteur et rien d'autre ». Producteur, technicien, c'était absolument exclu. Donc, je trouve que c'est un signe plutôt encourageant, ça.
Oui, c'est un signe encourageant, d'autant que c'est un métier passionnant et qu'on est dans un art qui est aussi une industrie et que l'aspect industriel et artistique, ce sont des choses qui s'interpénètrent en permanence et qui sont passionnantes à gérer. Alors cela dit, je crois qu'il faut maintenant aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut essayer de faire avancer le cinéma et le cinéma a d'énormes possibilités devant lui et qui ne sont pas du tout explorées. Et c'est pour ça que je pense que les jeunes producteurs doivent faire surface le plus vite possible et pousser des auteurs, des metteurs en scène à aller dans des directions nouvelles, à explorer des champs inconnus en se disant que le cinéma c'est quand même l'image et le son et que de ce point de vue là on est quand même encore resté très très proche d'autres arts qui ont inspiré le cinéma et que maintenant il faut essayer de couper le cordon et que c'est pour ça que la crise dont on parle aujourd'hui il faut quand même un peu calmer les choses dans la mesure où il y a des possibilités économiques en France, en tout cas. C'est peut-être pas le cas dans d'autres pays, mais en France, on est quand même extrêmement gâtés. On a des tas de systèmes de financement qui se développent, on a des tas de systèmes de diffusion, et on est en plein boom. Mmh. Et c'est très excitant.
Dans ce que tu dis sur le cinéma n'a pas encore exploré toutes ses possibilités, je reconnais l'écho lointain et assourdi de ce qu'a toujours dit Bresson. Bon. C'est important que tu parles un peu de ta première expérience au cinéma, qui était plutôt une expérience d'acteur, car tous les gens qui sont passés, techniciens ou acteurs par Bresson, même quand ils n'ont pas renouvelé l'expérience, ça les a marqués, comme si ça leur avait appris deux, trois choses fondamentales. Qu'est-ce que tu as appris, toi, avec Bresson ?
Moi, j'ai effectivement appris beaucoup avec Bresson, parce que c'était un point de vue formidable d'être acteur, enfin modèle avec Bresson, parce qu'il y avait un grand chef opérateur qui était Pasqualino De Santis, qui avait lui, qui avait tout un système qui était assez extraordinaire et nouveau, puisque c'était la première fois que je participais à un tournage de film. Je crois que Bresson a tout à fait raison quand il dit qu'il faut avancer dans le cinéma. Je crois qu'il faut se méfier de gens comme Bresson dans la mesure où il ne faut pas trop se référer à lui, parce que en l'occurrence Bresson est quelqu'un d'inimitable, et de dire d'un film qu'il est un peu bressonien, c'est presque impossible, dans la mesure où son système est tellement unique qu'on ne peut pas, on peut s'en inspirer, mais en tout cas on ne peut pas dire qu'il y a une école Bresson. On parle de production. Bresson est quelqu'un qui a jamais fait tellement de spectateurs, mais Bresson a inspiré les cinéastes du monde entier. Donc on peut dire qu'il a fait avancer le cinéma, et donc c'est un modèle à suivre. Il faut pas suivre forcément son cinéma. Tout ce qu'il dit de son cinéma et sa manière de tourner, mais sa démarche est vraiment très forte et très intéressante, très solitaire, et il faut insister sur le côté il faut prévenir les gens qui s'intéressent au cinéma que le cinéma c'est très dur, ça paraît comme ça merveilleux, mais que c'est vraiment un univers extrêmement dur. Chaque film, il faut recommencer à zéro. Il y a des tas de métiers qui sont durs, mais le cinéma est quand même quelque chose de très très particulier. Mais on peut se réjouir du fait que sur le plan financier, paradoxalement, c'est quand même plutôt de moins en moins dur. C'est-à-dire qu'on a des tas de possibilités de se refaire, même si on est sur un échec commercial avec un film.
Lorsque les films de Chahine n'ont pas marché, tu as été abattu ou surpris, ou tu te dis bon...
Moi, pas
on
du
continue
tout.
Quand
moi,
même.
Comme tu sais, ce film a été une aventure extraordinaire, tant sur le plan anecdotique qu'humain. Et son insuccès, je m'en doutais un petit peu, parce que le thème était quand même déjà assez agressif et peut-être difficile à, appréhendé par un public ici et même en Égypte, puisque bon, tous ces films, c'est un peu comme L'Homme voilé aussi, qui sont à la frontière de plusieurs cultures, plusieurs mondes, plusieurs civilisations. C'est pas évident, hein. C'est pas des films qui sont faits pour être évidents et aimer tout le monde. Ce sont au contraire des films qui essayent de faire bouger des choses. Alors le film Adieu Bonaparte a été une expérience fantastique, à tel point que quand Chahine, au montage d'Adieu Bonaparte, m'a demandé comment il pouvait faire un autre film en France, et qu'il m'a parlé de son amitié avec Dalida, j'ai dit comme une boutade, mais faisons un film avec Dalida. Et bon, c'est parti comme ça, et le film s'est fait, et c'était une grande chose de l'avoir fait. Et c'est un film unique que je suis très très content aussi d'avoir fait. Et bon, je crois que tout ce qui participe, alors en plus à une ouverture sur d'autres civilisations, d'autres cultures, d'autres univers, est bon pour le cinéma, même s'il y a des échecs sur ces films en particulier. Mais ce sont des ponts qu'on crée et qui serviront certainement plus tard à faire avancer les choses.
Oui, c'est que le cinéma maintenant a une sorte de mission que la télévision ne peut absolument pas avoir, qui est qu'un bon film, c'est presque toujours maintenant une frontière. C'est comme une ligne frontière. Donc évidemment, il y a des gens des deux côtés de la frontière, personne ne s'y reconnaît réellement, c'est un miroir que l'on propose. Il est toujours vulnérable, mais on se dit que depuis un petit bout de temps déjà, le cinéma d'auteur, pour des raisons économiques, des raisons de coproduction obligée, de montage étrange, est peut-être réduit, mais alors dans le bon sens du terme, dans le sens où c'est une chose dont on a absolument besoin pour ne pas nous replier trop sur nous-mêmes, de jouer ce rôle-là. Il y a une autre question qui vient à l'esprit, c'est... Il y a différents types de producteurs. Il y a ceux qui sont tout le temps sur le plateau, qui terrorisent tout le monde. Il y a ceux qui ne vont jamais sur le plateau. Il y a ceux qui, comme j'ai compris un peu comme toi, n'arrêtent pas de faire l'aller-retour entre le Berry, je crois. Non, c'est pas le Berry.
Oui, le Bourbonnais.
Le Bourbonnais, où tourne donc René Alliot et puis Paris. Oui. Qu'est-ce que tu as, toi, comme...
J'ai effectivement un principe qui est de faire, alors c'est un peu une chose technique, de faire un peu les deux choses, c'est-à-dire ce qu'on appelle le métier de producteur qui consiste à monter les financements du film et tous les contacts avec les techniciens, les acteurs, etc. Et puis la fabrication du film. Je pense que les deux choses sont liées, c'est impensable de ne pas rester connecté avec la fabrication d'un film. Je sais que ça s'est fait, mais... J'ai pas beaucoup d'admiration pour les gens qui se coupent complètement d'un tournage. Je crois que le metteur en scène a besoin du partenaire producteur sur le tournage et que c'est très important d'y être. Mais comme une équipe, c'est quelque chose de très délicat, chacun gère ça à sa façon. Moi, j'ai une technique qui consiste à avoir des rapports assez délicats avec l'équipe, donc être là sans être là, de manière à ce qu'il y ait un certain... Bon, le producteur joue un peu le rôle de papa dans cette aventure. Les gens ont des rapports quand même très tendus. Une équipe de film, c'est des gens qui sont une quarantaine de personnes qui se regroupent pendant X semaines et qui ne se connaissent pas forcément et qui sont condamnés à travailler ensemble et à faire avancer le film. Donc moi, j'essaye de lier les deux. Les deux m'intéressent. C'est deux étapes très, très différentes. Le montage financier est très solitaire. Et j'aime beaucoup. Et puis la partie tournage, c'est tout d'un coup une chose d'équipe qui est aussi très intéressante. Mais je crois que c'est très important de faire les deux. Les producteurs qui ne sont pas sur le tournage, je crois, font une erreur par rapport à leur film. Mais il n'y a pas beaucoup de vrais producteurs qui se coupent du tournage, quoi. Ça m'étonnerait.
Il y a une chose qui est tentante sans doute pour un producteur, c'est de créer de film en film une sorte de... non pas de signature ou de griffe personnelle, mais d'avoir les mêmes gens, de garder les mêmes techniciens, enfin de créer une sorte de tissu qui puisse servir pas seulement pour un film, mais pour une série de films. Ou est-ce que toi, tu préférais au contraire que chaque film soit une aventure complètement différente, avec des gens complètement différents ?
Moi, je crois que ça dépend beaucoup de la nature du réalisateur, et qu'il y a des réalisateurs qui ont des méthodes de travail qui marchent avec certains techniciens, et tout d'un coup, d'autres réalisateurs qui ne peuvent pas travailler avec ces techniciens avec lesquels on a travaillé précédemment, parce que bon, c'est une question de méthode et de rapport humain, etc. Donc, moi, je cherche pas à avoir d'équipe attitrée. Il y a des gens avec qui je m'entends bien, que je propose toujours à des metteurs en scène avec qui je travaille pour la première fois, et si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, c'est pas très grave. Mais je crois que il faut surtout pas chercher à vouloir recommencer une expérience qu'on a eu précédemment sur un film. Chaque film doit être à nouveau une espèce de renaissance, tout point de vue, quoi. Sinon, une espèce de banalisation des choses et on rentre dans un système qui est le système, malheureusement, de la télévision qui a des équipes à l'année.
Bien sûr.
Et le résultat de ça, c'est que bah, quand on veut s'arrêter une heure le lendemain pour déjeuner un peu après l'heure prévue, bah, c'est très compliqué quand on est dans une équipe avec des gens de la télévision. Ce qui est fait qu'on s'est beaucoup battu pour le film d'Aliot, de faire ce film avec une équipe privée. Ce qu'on a réussi à faire, donc on fait un film comme si on faisait un film pour le cinéma. C'est la même économie, c'est les mêmes rapports humains.
Pour en venir à la question de l'âge et de la génération, est-ce qu'il y a beaucoup de gens de ton âge ou même plus jeunes qui font de la production, ou est-ce qu'il y a un sentiment vague de connivence ou de complicité, ou est-ce que vous êtes aussi isolés entre vous que, disons, les auteurs le sont entre eux?
Je crois que il y a quelques producteurs jeunes, heureusement, mais il n'y en a pas beaucoup. J'ai pas l'impression qu'il y en ait.
Quelqu'un comme Diaz, par exemple.
Oui, Diaz, il y a Sandrin, il y a. Il y en a d'autres. Sard et Terzian ne sont pas très vieux. Bon, il y en a un que j'aime beaucoup, Alain Sard, il m'amuse et je trouve qu'il. Lui, il correspond vraiment bien à toute une donnée économique du cinéma français. Il a été à un moment. Il a eu un rôle enfin, dans le cinéma français. Il y en a l'autre que j'aime moins parce que je trouve que ses productions et ses discours sont un peu opportunistes et que je crois qu'il ne faut pas chercher à créer des syndicats de producteurs pour défendre la corporation des producteurs. Ce n'est pas ça qui va faire avancer le cinéma. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on crée un syndicat de producteurs qui parle du métier de producteur plutôt que de se dire comment on va protéger nos films, nos droits, etc., par rapport à la télévision. Non, proposons à la télévision des choses et soyons forts sur nos choses à proposer et soyons aux côtés des metteurs en scène et des projets. Alors là, oui, là il y a une dynamique qui pourrait s'enclencher. Alors il y a une solitude du producteur évidente qui est que le producteur, sauf s'il fait un énorme succès, bah, il a beaucoup de temps à consacrer à des relations avec d'autres personnes. Mais s'il est dans un cycle qui est plutôt le mien de films qui ne marchent pas forcément toujours très bien, bon, ben, il y a un boulot énorme de gestion, de rattrapage, de s'occuper de choses financières qui sont quand même la première chose dont le producteur est responsable. Et ce qui fait que le producteur est assez isolé pour ces raisons-là. Mais il faut absolument briser cet isolement parce que l'isolement dans la gestion est mauvais. Et il est très important de voir qu'il y a des gens qui ont les mêmes difficultés, les mêmes plaisirs, les mêmes angoisses.
C'est ce que dit un producteur de la vieille école, qui est Serge Silberman, qui est moi le seul que je connaisse de cette génération-là, quand il déplore cette même solitude. Et il dit, mais à l'époque, dans le temps, jusqu'aux années 40-50, comme on déjeunait tous à la cantine de Boulogne, studio, bah, les producteurs qui étaient là disaient, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Et les gens disaient, bah, je fais un truc formidable. Ils se racontaient l'histoire et ils disaient, on ne se piquait pas les idées, ou même à la limite, ça faisait partie du jeu. Et on avait le sentiment d'être tous un peu dans la même barque. Et ça semble avoir totalement disparu.
Bah oui. Moi, je voudrais quand même dire qu'il y a eu un moment, j'ai trouvé, où il y a eu une espèce de volonté de rassembler un peu les gens, et qui était le passage de Jacques Lang au ministère de la Culture. Bon, on peut critiquer. Son action, tout ce qu'on veut, mais il faut quand même reconnaître une chose, c'est qu'il a créé une espèce de convivialité même européenne, même internationale à tous les niveaux, entre les réalisateurs, les producteurs, les acteurs, et que j'ai trouvé que c'était quelque chose de très positif, ça. Et qu'il est dommage, par exemple, qu'en France on n'ait pas une chose, bon, il y a le Festival de Cannes qui est ce qu'il est, mais qui à mon avis a complètement n'a pas du tout cette fonction de rassembler les gens, au contraire. Je veux dire, Cannes est un endroit épouvantable pour voir.
C'est là où on se sent le plus seul.
On se sent le plus seul, c'est abominable, alors que tout le monde est là, le cinéma du monde entier est là. Il y avait le Festival de Paris qui avait été une tentative de. Bon, ça n'a pas marché, mais je trouve que ça, c'est une chose qui manque. La Cinémathèque pourrait jouer ce rôle de rassembler un peu les gens. Et effectivement, ça, il n'y a plus de centre, il n'y a plus de lieux géographiques. Les gens se retrouvent et parlent de leurs actions. Alors bon, on perd du temps dans des trucs genre des nouveaux syndicats de producteurs qui m'énervent beaucoup en ce moment, parce que je trouve que quand on voit la différence de style de producteurs qui sont dans ce nouveau syndicat, on se demande à quoi ça sert. Ça n'a aucune cohérence. Certains énormes producteurs qui ont des alliances avec les chaînes de télévision et des petits producteurs indépendants, ils peuvent pas avoir les mêmes intérêts, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui cloche.
Oui, ce qui te ramène à reparler de la télévision, quand tu négocies donc le financement d'un film en passant par la télévision, de quoi est fait le dialogue avec les gens de télévision? Parce que je me souviens, sur le film de Chahine, il y avait Larieux de TF1 qui était sur le plateau et on voyait bien, là, je dis pas un truc méchant, qu'il appartenait à un autre monde que le monde du cinéma.
C'est ça. Alors moi, en ce qui concerne le film d'Aliot, par exemple, c'est un film qui se passe entre FR3 et la 7. Je crois que c'est FR3 et la 7 sont des interlocuteurs intéressants pour la production indépendante qui veut faire des choses un peu ambitieuses. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il y a deux pôles qui sont FR3 et la 7 et qui se bouffent un peu entre eux, ce qui rend la négociation difficile parce que le producteur est ballotté entre la 3 et la 7 et qu'il faut faire la synthèse de tout ça. Il y a des gens de valeur dans les deux sociétés. Et il est capital que cette tête-là, c'est-à-dire cette alliance entre la 7 et la 3 continue, parce que s'il n'y a pas ça, alors là, ça sera quand même très embêtant pour le cinéma français. Alors, ça marche plutôt bien, ils ont de l'argent, ils ont envie de faire des choses, il y a des rapports qui sont assez sains, rapides, on ne fait pas traîner les gens trop longtemps, ce que je trouve très positif. Il y a une équipe soudée à la 7, FR3 c'est plus difficile parce qu'ils ont des charges de personnel très importantes et ils sont obligés d'essayer de placer leur personnel, ce qui est un problème qu'il faut absolument résoudre vite, parce qu'on peut pas, les producteurs indépendants ne peuvent pas amener toute cette matière de gens qui ont travaillé pour le cinéma à la télévision et travailler avec des techniciens de la télévision, c'est pas le même monde, ça peut pas fonctionner, donc c'est une aberration. Donc il faut résoudre ce problème, mais il faut absolument occuper ce terrain, parce que la production indépendante d'auteurs est menacée, fait de moins en moins d'entrées. Paradoxalement, en fait, elle est la moins touchée parce qu'elle n'a jamais fait beaucoup d'entrées.
Oui, donc, elle est plutôt fidèle à elle-même.
Elle est plutôt fidèle à elle-même. Et par contre, d'occuper le créneau de FR3 et de la 7 et d'autres chaînes de télévision qui voudront faire des choses intéressantes, mais pour l'instant, il n'y a qu'à FR3 et la 7. On ne peut pas dire que TF1, la 5 ou la 6 aient lancé des grandes productions dites de télévision très intéressantes. Ils vont peut-être s'y mettre, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, le directeur général de TF1 l'a bien dit. Il a dit, si vous voulez qu'on fasse du culturel, entre guillemets, donnez-nous de l'argent, que l'État nous donne de l'argent. Donc, comme cette situation n'est pas encore clarifiée, pour l'instant, il y a peu de gens qui se soucient à la télévision de faire des programmes audiovisuels intéressants. Donc, moi, je dis, vive FR3 et la 7 et que ça puisse tenir le plus longtemps possible. C'est une grande chance.
Il y a quelque chose qu'il faudrait spécifier, parce que je crois que dans la conscience moyenne des gens, on a beau dire, le producteur, c'est quand même encore quelqu'un qui a le rapport à l'argent, mais qui l'a complètement, c'est-à-dire qui fume le cigare, qui a de l'argent plein les poches, etc. Or, il faudrait dire, c'est purement pédagogique, que le producteur, sur un film, il est plutôt le dernier remboursé, ou le dernier payé. Comment ça marche, la remontée de l'argent pour quelqu'un comme toi ?
Ben, il est le dernier payé, dans la mesure où le producteur indépendant, en général, est producteur délégué, c'est-à-dire qu'il a des partenaires qui sont... en l'occurrence, là, j'ai des partenaires qui sont des chaînes de télévision, mais qu'il garantit à tout le monde la bonne fin du film. C'est-à-dire que si le film se fait dans le budget prévu, ben, tout va bien. Et si le film dépasse, c'est-à-dire dure plus longtemps, enfin, il y a des tas d'impondérables qui peuvent arriver sur un film, c'est le producteur indépendant et sa société qui est responsable. Alors s'il a beaucoup d'actifs dans sa société, il peut jouer là-dessus. Mais il ne peut pas jouer éternellement. Donc c'est pour ça qu'il a une grande responsabilité et une grande angoisse, parce qu'il y a des metteurs en scène. Une fois qu'un metteur en scène est parti sur un film, on ne peut plus l'arrêter. Il y a en France ce qu'on appelle le droit moral de l'auteur. Si un auteur, un réalisateur a écrit un scénario, page 32, il a écrit une scène qui se passe au soleil, mais qu'il n'y a pas de soleil, il peut attendre 3 mois le soleil et pas tourner sa scène. Personne ne peut l'obliger de tourner sa scène sans soleil, puisqu'il a écrit dans le scénario et qu'il y a un droit moral. Bon, j'exagère un petit peu la chose, mais l'auteur réalisateur en France a un grand pouvoir, mais en général, ça se passe assez bien.
Ça t'est jamais arrivé, toi, que quelqu'un...
Ça m'est arrivé, ça n'a pas été loin de la catastrophe, mais bon, ça s'est arrangé, mais... Bon, ça, c'était une situation tendue avec un réalisateur, mais bon, ça s'est arrangé. Mais il faut le savoir, ça fait partie des risques de producteur. Un producteur a beaucoup, beaucoup de risques. Et alors, on apprend au fur et à mesure à les contrôler le mieux possible. C'est pour ça qu'il y a une espèce de relation quand même très importante à établir avec le réalisateur. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que les producteurs deviennent des vrais partenaires créatifs avec les auteurs, et que les auteurs, eux, deviennent presque des partenaires aussi financiers, qu'ils comprennent la mécanique financière, et qu'il y ait une association qui se crée au service du film, et qui peut aboutir à des très bons résultats, dans la mesure où l'argent est mieux géré, il est mis sur des scènes où bon, ça vaut le coup, etc. Il y a une communication qui doit être permanente, ce qui est difficile avec des auteurs-réalisateurs qui ont travaillé dans l'ancien système. L'ancien système, c'est ce qui remonte à une vingtaine d'années.
Parce que pour faire un point presque historique, il faut dire que lorsque la production en France a commencé à battre de l'aile, la production classique, la première solution a été que certains cinéastes, et ça s'est tombé sur ceux de la Nouvelle Vague, on su s'organiser comme petit patron. Je veux dire que Truffaut disait, moi tous les matins je vais au bureau, j'ai 10 salariés, je me sens responsable, il faut tous les jours travailler sur le film en cours, le film d'après, etc. Et lui avait fini par aimer ça, mais c'était en même temps une charge très lourde. Ouais. Godard à sa façon a fait ça, Romer à sa façon a fait ça. D'autres ont jamais su le faire. Et on est certainement dans une période où, de nouveau, on divise le travail, parce que c'est trop lourd pour la majorité des cinéastes d'être aussi les responsables économiques. Enfin, il faut qu'ils aiment l'argent, il faut qu'ils aient un rapport personnel très fort au jeu économique, et il faut de nouveau inventer ce partenaire qui avait finalement disparu, qui est le producteur. Et est-ce que tu sens pas ça, par exemple, chez les auteurs, une sorte de soulagement d'avoir un producteur maintenant ?
Si, tout à fait. Je vois le cas avec René Alliot, par exemple. C'est un cas. Il était producteur lui-même de son film précédent, et il a eu des difficultés. Il avait les deux casquettes de producteur-réalisateur, et ça a été l'enfer pour lui. C'est d'autant plus important maintenant que la réalité, le financement des films change pratiquement tous les 6 mois. Il y a des nouvelles choses qui se créent. C'est incroyable, ça va à une vitesse folle. Donc les auteurs ont déjà 3 ou 4 ans de retard, parce qu'ils font un film, disons, quand un auteur-réalisateur fait un film tous les 2-3 ans, c'est déjà pas mal. Donc il est déjà en retard par rapport à ce qui se passe 3 ans plus tard. Et 6 mois plus tard, ça a encore changé. Donc le producteur, là, a un vrai rôle à jouer, parce que lui, faisant plus de films en principe, est plus au courant de l'actualité. Et c'est pour ça que... Bon, il y a une relation qui doit s'établir de manière impérative sur le plan de la production entre l'auteur et le réalisateur.
Là, tu dis quelque chose d'extrêmement intriguant. Tu dis que ça change tous les 6 mois. Alors, j'aimerais que tu nous racontes comment ça a changé 6 mois en arrière et comment ça va changer d'ici 6 mois.
Eh bien, dans le cas de René Alliot, il avait écrit un sujet qu'il aurait dû faire dans une économie film-cinéma. Qui aurait donc eu l'avance sur recette, un distributeur, une coproduction d'une chaîne de télévision. Il n'a pas eu l'avance sur recette, donc le film était déjà assez mal parti. Il y a 6 mois, s'est créée une subvention audiovisuelle qui est gérée par le Centre National du Cinéma, qui est l'équivalent de l'avance sur recette, et qui est une subvention pure et simple, et qui est attribuée à des films de télévision qui donc ne sortent pas en salle, a priori, et qui sont, et cette subvention marche à partir du moment où on a un accord avec une chaîne. Donc ça, c'est un truc complètement nouveau qui date d'il y a 6 mois. Donc on a fait le film d'Alliot dans cette économie, avec en plus la coproduction de la 7. Alors on peut se dire que dans 6 mois, il va y avoir des nouveaux créneaux qui sont par exemple le câble, qui sont la chaîne satellite de la 7 qui est en train de démarrer. Il va y avoir des accords de coproduction télévisuelle entre les pays européens qui sont en train de se mettre en place, avec des subventions dans les différents pays. Donc ça implique évidemment une coproduction avec un autre partenaire européen. Ça, ce sont des choses qui sont en train de se faire. S'il y a un an et demi... Donc Canal Plus a maintenant 2 ou 3 ans, je ne sais plus combien.
2 ans.
Deux ans, c'est pas très loin. Quand Canal Plus s'est créé, ça a été un espèce de ballon d'oxygène pour la production incroyable. Tout d'un coup, une grosse partie de la production française qui s'est vendue à Canal Plus. Alors il y a eu toutes les bagarres à Canal Plus dont on a parlé, mais il faut quand même dire que ça a été aussi une grande chance pour la production cinématographique, puisqu'elle avait perdu des spectateurs en salle. Et d'un autre côté, elle vendait à Canal+. Donc c'était un équilibrage. Entre-temps, donc ça c'était il y a 2 ans, il y a eu la création des Sofica sous Jacques Lang, qui sont bon, qui ont été des moyens de pallier à la crise des distributeurs qui ne pouvaient plus donc, donner des avaloirs. Donc tout ça, ça a été remplacé par les Sofica. En 3 ans, on a eu 4 événements très importants économiquement qui ont un peu bouleversé la production. Alors, pour quelqu'un qui avait produit un film il y a 4 ans et qui n'avait rien fait depuis, il ne peut pas être au courant de ça, parce que même s'il a été, il a suivi la presse, etc., il ne l'a pas vécu de manière directe. Alors ça change, ça oblige à changer les comportements. Je reviens à Lio, c'est un bon exemple. Il n'a jamais fait un film pour la télévision, c'est le premier qu'il fait. Mais on se retrouve avec 13 millions de francs pour faire 3 fois 52 minutes. Et ben, c'est pas évident qu'actuellement on trouve 13 millions de francs avec des acteurs inconnus dans une équation de film-cinéma. Alors bon, au bout du compte, on va avoir un film d'Alio de 2h30 qui sera pas très différent d'un film qu'il aurait fait dans des conditions cinématographiques. Donc on peut être optimiste de ce point de vue-là.
Qu'est-ce qui a changé avec les distributeurs? Avant, ils avaient un rôle très important avec les avaloirs. On dirait que ça s'est un peu calmé.
Ben, moi, je n'ai jamais été un producteur qui a fait beaucoup de films avec des gros avaloirs distributeurs. Ça m'est arrivé assez rarement, ça m'est arrivé 3 fois. Donc moi, je ne suis pas tellement abonné à ça. En tout cas, les distributeurs ne peuvent plus donner d'avaloirs, tout simplement parce que la montée de recettes venant des salles est trop serré maintenant et qu'il y a trop de risques. Donc les producteurs qui fonctionnaient avec des avaloirs distributeurs se sont rabattus sur des financements avec les Sofica ou les chaînes de télévision qui mettent maintenant plus d'argent sur ces films dont on dit des films à avaloir. C'est-à-dire que quand on a un montage d'acteurs de Pardieu et Catherine Deneuve, on peut maintenant demander une énorme somme à une chaîne de télévision en coproduction qui pallie à ce que donnait le distributeur autrefois. Autrefois, c'était encore il y a un an.
Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque, alors, inversement, que là où est l'argent, c'est-à-dire les Sofica ou les chaînes de télévision, c'est un monde qui est très loin du cinéma et que ça produise des produits un peu exsangues, ou alors on aurait justement besoin, a fortiori, d'un producteur comme seul capable de faire tenir ensemble dans sa tête le dialogue avec les financiers, le dialogue avec l'auteur?
C'est pour ça que le métier de producteur doit se développer d'urgence, parce qu'il y a des vraies opportunités à prendre. Il y a des nouveaux décideurs financiers. C'est vrai qu'il y a eu un glissement vers la télévision et les Sofica. Les Sofica sont des gens qui sont totalement incompétents pour produire des films, mais pourtant ils interviennent dans les financements des films comme des coproducteurs avant qu'étaient des distributeurs. Donc il faut absolument occuper le terrain, parce que si on laisse ces gens-là décider, ben, effectivement, on risque d'avoir des produits, exemple, on en a déjà eu pas mal.
Bien sûr.
Le problème, c'est que tout ça se fait pas en 2 minutes, et que si on ne fait pas un travail de harcèlement sur ces gens permanent, et c'est pour ça que moi je souhaite qu'il y ait le plus de producteurs possible, et que c'est la seule chance pour le cinéma de fonctionner, c'est pas de centraliser dans des producteurs qui feraient 10 films dans l'année, mais qui n'est qu'il y ait 10 films différents qui soient faits par 10 producteurs différents et qui feraient les films parce qu'ils sont très motivés par leur sujet et par la relation qu'ils ont avec un auteur-réalisateur.
Je crois quand même que vers la fin de cette émission, il faut faire presque un point pédagogique sur ce que c'est qu'une Sofica, parce que nous on en parle un peu légèrement, mais il se peut que le nom n'ait pas un sens très précis.
Ben, une Sofica, c'est un établissement financier qui regroupe des capitaux de personnes privées qui veulent investir dans cet établissement financier et qui ont du coup des abattements fiscaux. Je parle des personnes privées qui investissent dans la société. Alors cette société a rassemblé X francs et va les investir dans le cinéma, soit des films cinéma, soit des coproductions télévision. Alors ça a un avantage, c'est qu'ils n'ont pas besoin de remonter l'argent immédiatement dans la mesure où la personne privée bénéficie déjà d'un abattement fiscal. Et d'autre part, ils ont la possibilité de jouer sur un plus long terme. Donc de se positionner sur des droits de films à plus long terme, à 4-5 ans, ce que ne pouvaient pas faire avant des distributeurs ou même les banques qui n'y croyaient pas. Comme il y a eu un boom de la télévision, grosse demande de films actuellement, maintenant, on fait des estimations très précises des valeurs des films pour le deuxième passage, troisième passage, quatrième passage. Donc il y a des calculs très savants qui sont faits par ces financiers. qui s'achète à prix d'or actuellement des catalogues de films.
C'est ça.
Qui est maintenant la grande mode actuellement à Paris, c'est-à-dire qu'on se préoccupe beaucoup plus de la valeur des catalogues en ce moment que de la production vraiment de films.
C'est ça, on est un peu à l'ère du boursicotage.
Le boursicotage est absolument extraordinaire et c'est devenu la grande mode. Alors, il faut quand même se préoccuper du contenu des films parce que ça n'a pas duré très longtemps. Comme ça, on va se repasser les catalogues pendant quelques mois, mais après, il faudra quand même recréer une industrie et surtout un art solide. Le cinéma est un art, quoi.
Le cinéma est un art, et sur cette parole définitive, on remercie Humbert Balzan. J'espère que ça n'a pas été trop austère, mais il fallait, une fois, dire un peu ce que c'est qu'un producteur aujourd'hui. Merci Humbert Balzan.
Merci.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 octobre 1987. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.